RFI, grand reportage, Laurence Adou.
De la Terre de Feu à l'Antarctique, c'est le voyage que nous propose aujourd'hui Frédéric Faux, en compagnie des marins qui naviguent sous ces latitudes extrêmes. Capitaine de ferry, équipier de voilier basé à Ushuaïa, skipper qui met le cap vers l'Antarctique depuis Puerto Williams, le point habité en permanence le plus au sud de la planète. Ils sont tous les héritiers de Magellan, qui a ouvert le détroit du même nom, c'était en 1520, et des marins qui ont découvert le Cap Horn un siècle plus tard. Aujourd'hui, les bateaux sont plus sûrs, les cartes plus précises, mais naviguer dans les 40e rugissant et dans les 50e hurlant, c'est toujours une aventure. Les marins du bout du monde, c'est un grand reportage de Frédéric Faux. Frédéric, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Le temps est beau, clair, dégagé. Mais il y a quand même beaucoup de vent. Et la mer est formée, hein. Elle moutonne. Voilà, je vais voir si je peux aller déranger le capitaine. Voilà, capitaine. Podemos instalarlo un poco?
Sí, paso.
Ok, gracias. Voilà, on est dans la cabine de pilotage, donc on domine le bateau.
Je suis le capitaine du bateau, Eduardo Leal, 25 ans de navigation dans la zone. C'est une zone extrême, car il y a quelques semaines, on a eu des vents qui allaient de 80 à 120 km/h. Et quand le temps est mauvais, de fin septembre à mars, on peut atteindre des vitesses de 160 km/h. Là, c'est presque impossible de naviguer.
Voilà, donc il a une carte enroulée là qui sur le pont. Voilà, donc là, on est en plein dans le détroit de Magellan. On longe les côtes de la péninsule de Brunswick. On descend le détroit. Donc là, c'est large, mais après, ça se rétrécit.
Oui, là, le détroit de Magellan est très large. Il y a presque 60 km de Punta Arenas à la Terre de Feu. Mais plus on descend vers le sud, plus ça va se rétrécir, avec des canaux qui font moins d'un kilomètre de large.
Le Yagan n'est pas un ferry comme les autres. Tous les jeudis, il part de la ville chilienne de Punta Arenas, au bord du détroit de Magellan, pour rejoindre Puerto Williams, le point habité en permanence le plus au sud de la planète, à quelques encablures du Cap Horn. Sa route, qui passe par les canaux de Patagonie, a aussi été celle d'innombrables navires qui ont sombré dans ces eaux. Quelques-unes de leurs traces ont été conservées au musée maritime de Punta Arenas. Un de ses guides, accompagné de l'historien Elcio Carcamon, nous montre une carte constellée de croix noires.
Cette carte montre tous les naufrages qui sont survenus entre le Cap Horn et le détroit de Magellan. Ici, les deux océans se rejoignent, le Pacifique et l'Atlantique. C'était l'époque de la navigation à voile. Les bateaux étaient à la merci des éléments.
Rien qu'au Cap Horn, on a enregistré la perte de 800 voiliers. Ayant au minimum un équipage de 20 personnes, cela fait au moins 16 000 morts.
Aujourd'hui, les bateaux sont mieux armés pour affronter les intempéries. Mais la navigation en terre de feu reste dangereuse. Au centre de secours maritime de Punta Arenas, les officiers de la marine chilienne sont mobilisés 24 heures sur 24.
On a des accidents avec des gros bateaux, principalement à cause du climat et des vagues. Un bateau peut avoir un problème de moteur, sortir de sa route et être jeté sur la côte. L'accident le plus récent, c'est le ferry Amadeo Ier qui s'est échoué dans le passage Kirke. Le plus grave, ça a été un bateau usine de pêche qui s'appelait le Faro des Hercules. Il a eu un problème avec ses machines et presque tout l'équipage est mort.
Heureusement, à bord du Yagan, tout se passe bien. Le ferry, qui n'embarque qu'une soixantaine de passagers, est subventionné par le Chili pour relier Puerto Williams, ce bout du monde, au reste du pays. Oscar en profite pour rejoindre son fils qui travaille à Puerto Williams.
Ça fait 10 ans qu'il travaille à Puerto Williams. Il est chauffeur de camion. Il décharge des conteneurs pour l'entreprise qui gère le port. Là-bas, il gagne un meilleur salaire. Il fait froid, c'est sûr, mais maintenant, il est habitué.
Black seal.
Oh, okay. Des phoques nagent à côté du Yagan. Le ferry poursuit sa route au milieu de montagnes enneigées. Amélie, une touriste française, est fascinée par les glaciers qui se jettent dans le canal de Beagle.
En fait, on voit un glacier effectivement qui descend presque jusqu'à l'eau. Et on nous a dit que c'était le premier glaciaire sur le chemin jusqu'à Puerto Williams. Ce qui est très beau, c'est le bleu, quoi, le bleu à l'intérieur des crevasses. C'est vraiment magnifique. Il est gigantesque, hein.
Naviguer dans ces canaux étroits n'a rien de facile. Mais pour le capitaine Eduardo Leal, mieux vaut s'abriter derrière ces reliefs plutôt qu'affronter le Pacifique.
En ce moment, on a un vent de secteur ouest à raison de 35 nœuds et des vagues de 3 à 4 mètres. On est plus dépendant des instruments à cause du manque de lumière et des averses de neige. Mais à l'extérieur des canaux, dans le Pacifique, il y a des vagues de 10 mètres.
Après 24 heures de navigation, nous arrivons en face d'Ushuaia. Le Yagan ne fait pas escale dans cette ville argentine, mais son port est une étape obligatoire pour les bateaux qui partent vers l'Antarctique, à seulement 1000 km de là. Chaque année, 50 000 personnes rejoignent le continent blanc, et 95% le font depuis Ushuaia. Un voyage de rêve, mais qui a son prix. Guadalupe Ocampo, du bureau Antarctique d'Ushuaia.
Le voyage vers la péninsule antarctique prend 10 jours. Ce sont des bateaux faits pour ce type d'expédition avec des coques renforcées. Ils peuvent embarquer entre 100 et 150 passagers. Les voyages les moins chers coûtent 6 000 $ et en saison, on peut obtenir des prix de dernière minute, mais cela n'arrive pas tous les jours.
Entre novembre et mars, Ushuaia, au bord du canal de Beagle, est encombré de gigantesques paquebots et de hordes de touristes qui suivent leurs guides, petits drapeaux à la main. Pour retrouver l'esprit d'aventure qui résonne à travers ce nom, Ushuaia, il faut rejoindre le port de plaisance où une belle surprise attend les visiteurs francophones.
Bonjour, ça va? Les moteurs marchent?
Je ne sais pas encore, mais oui, ça va marcher.
Ça va marcher?
Pour ma pompe,
surtout. Ok, je suis là toute la journée, normalement.
Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas sur un quai breton ou sur les bords de la Méditerranée. Dans le port de plaisance d'Ushuaia, comme on peut l'entendre, la plupart des capitaines sont français. Roxana, c'est un peu leur ange gardien.
Ici, et dans quelques minutes, on a 2 bateaux français qui vont partir. Un bateau part pour l'Antarctique, l'autre bateau part pour Cap Horn. Et quand j'ai arrivé ici la première fois en 1990, il y avait 6 ou 7 bateaux charter. Et maintenant, il y a 25 bateaux charter minimum. Et il y a beaucoup de demandes. Et je me sens un peu comme la maman du voilier. Et je suis là, et s'ils ont un problème, tout le monde vient me contacter aussi. Bonjour Patrick. Et les voiles, ça va? Toi, déjà réparé tout ça?
Oui, ça y est.
Ok. Patrick est une solitaire française. Okay. Je dirais en 80% de France, des voiliers françaises arrivent toutes les saisons ici. Ils connaissaient les noms Ushuaia, par exemple, ou la Terre de Feu. Et ils sont très heureux d'être ici. C'est un peu un rêve de les Français de venir ici à la Terre de Feu.
En 1973, le Français Jérôme Poncet a été le premier à rejoindre l'Antarctique dans un petit voilier de croisière. Depuis, de nombreux skippers proposent ce voyage unique. Claude possède un voilier charter, le Vaillere.
Nous, on vit en famille à bord du voilier. On propose trois voyages par saison, en sachant que, en gros, l'idéal, c'est de mi-décembre à début mars. Et ça, c'est le cœur de l'été austral. Un peu plus tôt, il y a de la glace, donc on peut pas non plus bien explorer la péninsule parce que les mouillages sont occupés par la glace et tout, on peut pas aller bien loin. Et puis au mois de mars, ça commence à être tard, quoi. Les animaux s'en vont, la nuit arrive. L'hiver revient super vite et on sent tout de suite que que...
Il est temps de mettre les voiles.
Exactement. Non, mais ça se sent. Quand on est là-bas, on voit bien qu'il faut bouger.
Mucha comida. Ahí vamos. Arriba.
Sur le ponton, c'est un va-et-vient constant de chariots remplis de nourriture. Tarka, un voilier de 18 mètres, va partir dans quelques heures avec 7 équipiers pour un voyage d'un mois. Olivier, son skipper, supervise les derniers préparatifs.
Là, il n'y a plus une place de vide. La problématique, effectivement, c'est de trouver les endroits pour stocker la nourriture, évidemment. 40 kg de patates, 30 kg d'oignons, c'est ce genre de mesures, quoi. Mais il y a aussi plein de gasoil, plein d'eau, enfin il y a plein de choses quoi. Plus le matériel technique, des pièces de rechange, etc. C'est vraiment des expéditions qu'on fait. Hein. C'est, donc il n'y a pas un confort extrême, hein. L'espace est compté. Ça n'a rien à voir avec les croisières sur les gros bateaux à passagers. Hein. Ils vont dans la même zone que nous, mais ils ne font quand même pas tout à fait la même chose que nous. Nous, on va dans des tout petits mouillages ou inaccessibles pour les gros bateaux. Quoi. Et voilà, c'est pas la même ambiance parce que les gens chez nous, ils participent aux manœuvres, ils participent à tout. Ils font vraiment partie de l'aventure, quoi, de l'expédition.
Pour vous, là, c'est la routine. Vous allez en Antarctique comme d'autres prennent le métro où il y a toujours une petite excitation quand même.
Ah non, c'est pas du tout une routine. C'est vraiment une aventure, une expédition à chaque fois. Déjà sur place, là où on navigue, ça dépend tellement des glaces que c'est jamais deux fois la même chose. Donc à chaque fois, le mouillage, il faut bien le choisir pour pas qu'il y ait, par exemple, d'iceberg qui viennent pendant la nuit nous embêter. Bon, voilà. Donc pour nous, c'est jamais la routine.
Capitaine à la droite, attention, présente.
Nous sommes de retour à bord du Yagan, prêt à débarquer. Après 30 heures de navigation, le ferry est arrivé à Puerto Williams, le lieu habité en permanence le plus au sud de la planète. Sur la place d'armes, les hommes de la marine chilienne rendent les honneurs. Le village, qui compte 2000 habitants, n'a longtemps été qu'une base militaire. Mais aujourd'hui, les autorités veulent en faire la porte d'entrée vers l'Antarctique. Patricio Oyarzo, le gouverneur, détaille les projets en cours.
El aeródromo construirlo nuevo.
On va reconstruire l'aéroport pour qu'il puisse recevoir des Boeing. On va agrandir le port pour qu'il puisse accueillir des bateaux en route pour l'Antarctique. On va faire un centre scientifique pour les chercheurs qui attendent une fenêtre météo pour aller en Antarctique. Finalement, c'est nous la ville le plus au sud. Nous sommes déjà l'Antarctique.
En attendant l'arrivée de la manne touristique, les seuls qui fréquentent la marina de Puerto Williams sont les skippers des voiliers. Ils se retrouvent dans le carré de l'ex-bateau militaire Micalvi, transformé en bar. Un lieu que fréquentent tous les marins du bout du monde, comme Yves Germain, qui s'apprête à être le premier à rejoindre l'Antarctique avec un catamaran.
Ouais, ça fait partie des endroits mythiques, que ce soit Ushuaia ou Puerto Williams. Sont les ports du bout du monde et le bar du Micalvi est très très connu dans le monde des voyageurs en bateau et des skippers qui sont un peu sur les routes atypiques et du coup ça crée des espèces de petits microcosmes de bateaux, tout le monde aide tout le monde et, autant nous on arrive tout neuf sur un bateau atypique, on pourrait nous regarder bizarrement, même les skippers de bateaux qui sont là depuis 15 ans nous ont donné énormément d'informations. On a profité de l'expérience des autres là, pendant ces deux dernières semaines qui vont beaucoup nous aider, je pense. Ouais.
Au Micalvi, il y a des aventuriers, des bateaux anonymes et des bateaux célèbres. C'est le cas du pélagique Australis, un voilier avec une coque en acier de 24 mètres. À quoi ressemble ce joyau de la flotte antarctique ? Magnus Day, le skipper, nous fait la visite.
Come down, we're going to start in the saloon.
Yeah, okay.
On descend. Voilà, donc là, on est dans le carré arrière. Il y a un grand salon avec une banquette qui prend tout l'arrière du bateau. Deux tables en bois. It's large.
Yeah, it's big and it's comfortable.
C'est grand et c'est confortable. Pour le réveillon de Noël, on a reçu 20 personnes. Généralement, nous avons 8 passagers et 3 membres d'équipage. On a de la chance aussi d'avoir cette fantastique bibliothèque avec des livres sur l'Antarctique, l'histoire maritime. La cuisine est à côté, ce qui permet aux cuisiniers de participer aux conversations. Et la chose la plus importante, le fourneau qui envoie de l'eau chaude dans tout le bateau.
Salle de bain ?
Voilà, donc salle de bain.
And then two cabins like this.
Voilà, donc des cabines avec deux couchettes, une en haut, une en bas. Voilà, et donc à la pointe avant du bateau. Food.
Yeah, we have big racks here for food.
On a des étagères pour la nourriture. Cette zone n'est pas isolée, donc il y fait la même température que dans la mer Antarctique. Entre 1 et 2 degrés, c'est le frigo parfait.
So it's a perfect fridge.
Pour naviguer en terre de feu, et notamment vers l'Antarctique, il faut avoir les moyens. Comptez 15 000 euros pour un mois sur le Pelagic Australis. Mais avoir le pied marin n'est pas forcément une obligation.
Vous n'avez pas besoin d'expérience en voile. N'importe qui peut venir. La dernière fois, ma mère est venue, ça s'est très bien passé.
Les marins du bout du monde, un grand reportage de Frédéric Faux, réalisation Marc Minatel.
I am sailing home again. Cross the sea.
Frédéric Faux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Vous êtes rentré à votre port d'attache à vous, en Bolivie. D'abord, je voudrais vérifier une information. La ville la plus au sud de la planète, finalement, c'est pas Ushuaia, hein, en Argentine, mais plutôt Puerto Williams, au Chili.
Tout à fait. Il faut rétablir cette vérité. Et les premiers à le faire sont les Chiliens, qui veulent récupérer une partie de la manne touristique qui se déverse à tort chaque année sur Ushuaia. Si vous regardez une carte, vous verrez qu'Ushuaia est au nord du canal de Beagle et Puerto Williams au sud, sur l'île Navarino. Les puristes ajouteront que le point habité en permanence le plus austral, c'est Puerto Toro, un hameau de Puerto Williams, encore plus au sud, avec une dizaine d'habitants.
Alors la question que je me suis posée en écoutant votre grand reportage, en écoutant ces conditions parfois terribles de navigation, c'est qu'est-ce qui pousse les marins à s'aventurer sous ces latitudes ?
D'abord, il y a ceux qui sont forcés de naviguer. Cette partie de la Terre de Feu est composée de milliers d'îles et de canaux, c'est un vrai labyrinthe, il n'y a aucune route, et le seul moyen de se déplacer, c'est le bateau. C'est notamment le cas des habitants de Puerto Williams, tout au bout des Amériques. Bien sûr, ils ont un petit aéroport, mais l'avion, c'est cher. Et pour le transport des marchandises, de la nourriture notamment, il n'y a que le bateau. Et puis, il y a les voyageurs, ceux qui se promènent autour du monde en voilier. Et s'ils passent tous par Ushuaia ou Puerto Williams, c'est pour la beauté des paysages. Vous êtes en haute montagne avec des pics, des glaciers, mais au bord de l'océan. On ne voit vraiment ça nulle part ailleurs.
Au cours de votre reportage, vous descendez toujours plus au sud et vous rencontrez ces marins qui vont rejoindre l'Antarctique à la voile. Alors, depuis l'époque de Jérôme Poncet, le premier à avoir tenté cette aventure, eh bien, les bateaux ont beaucoup progressé, mais je suppose que ça reste encore une navigation plutôt difficile.
C'est vrai. En fait, le problème, c'est moins l'Antarctique que le passage de Drake, ce bras de mer qui sépare la pointe de l'Amérique du Sud de la pointe de la péninsule Antarctique. Ce sont 1000 km de navigation à travers un océan où les vents et les vagues tournent autour du pôle sud sans rencontrer d'obstacles. Alors les skippers choisissent très soigneusement leurs fenêtres météo pour passer le Drake dans de bonnes conditions. Le problème, c'est qu'en moyenne, vous avez une dépression toutes les 72 heures. Et en moyenne, il faut 72 heures pour passer le Drake. Donc, il est très rare de faire cette traversée sur une mer d'huile. Mais la récompense, à l'arrivée, eh bien, c'est l'Antarctique, le continent le plus sauvage de la planète, que vous pouvez découvrir en voilier, comme l'ont fait les premiers explorateurs.
À vous écouter, c'est vrai que c'est un voyage de rêve, mais quand on voit les prix, on redescend vite sur Terre.
En voilier, vous ne pourrez pas aller en Antarctique pour moins de 6000 euros, auquel il faut ajouter la caisse de bord, c'est tout le ravitaillement, et le billet d'avion, bien sûr, pour aller en Amérique du Sud. Si vous avez les moyens, vous pouvez même vous offrir le Pelagic Australis, 15 000 euros. C'est cher, c'est vrai, mais il faut quand même penser que c'est un voyage qui dure de 3 semaines à 1 mois, et surtout, c'est le voyage d'une vie. Sur ces bateaux, je n'ai pas rencontré vraiment des grandes fortunes, mais plutôt des passionnés qui ont économisé de longues années pour pouvoir toucher l'Antarctique.
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à écouter, bien sûr, sur RFI.fr, Frédéric Faux. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Bonne journée.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose